17h-19h, on s'explique avec Claude Montané.
La Réunion est l'un des départements français où le taux d'illettrisme reste important. En effet, cela concerne plus de 110 000 personnes sur notre île. Un chiffre qui a du mal à baisser depuis de nombreuses années. Tous les publics sont concernés, que ce soit chez les petits et les grands comme chez nos seniors. Les causes peuvent être multiples. Les conséquences sont importantes. Exclusion sociale, échec scolaire. Alors, quelle solution pour revenir à bout? C'est ce que nous allons découvrir ce soir sur Réunion la Première.
17h-19h, on s'explique sur la Première.
Lutte contre l'illettrisme, lutte également contre l'électronisme. C'est un autre fléau auquel il faut aussi s'attaquer. Et on s'explique ce soir avec nos invités. Lydie Marin, bonsoir.
Bonsoir Claude Montané, bonsoir tout le monde.
Vous êtes la présidente du syndicat des orthophonistes de la région Réunion. La chargée de prévention est également avec nous. Bonsoir Mégane Naz.
Bonsoir.
Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Dans quelques jours, vous allez lancer les journées nationales d'action contre l'illettrisme. Ce sera du 8 au 15 septembre. Donc cela fait plus de 10 ans maintenant que vous menez cette opération. Quel bilan des actions précédentes? Est-ce que je peux aussi vous poser la question, Lydie Marin, sur les actions précédentes?
Au niveau des journées nationales d'action contre l'illettrisme, effectivement, on essaie d'être le plus présent possible pour donner un maximum d'informations et de conseils à la population réunionnaise pour pouvoir les aider justement à essayer de vaincre ce fléau ici à La Réunion. Au niveau des bilans, les actions se sont toujours très bien passées. Les Réunionnais sont toujours satisfaits de nous rencontrer, de pouvoir poser toutes les questions, toutes leurs questions. On essaye au maximum de les guider et comment vous dire d'autres choses. Ça a toujours été très positif pour tout le monde.
J'ai l'impression que c'est plus facile d'aller vous rencontrer sur le terrain que d'aller vous consulter en cabinet, parce qu'il faut parfois patienter 3 ans avant d'avoir un rendez-vous chez l'orthophoniste Lydie Marin.
Oui, c'est très très difficile de pouvoir accéder malheureusement à nos soins. On le déplore et on essaie de faire un maximum de notre côté. Mais c'est vrai que c'est très très compliqué. C'est pour ça que on essaye, avec le temps qu'on peut bénévolement mettre pour la prévention, on essaie d'être là au rendez-vous pour justement rencontrer un maximum de personnes qui ont besoin.
Vous imaginez allez-y.
Hors temps cabinet et hors temps de travail sur le terrain.
Vous imaginez la détresse des parents qui doivent consulter en urgence pour leurs enfants, Mégane Naz?
Oui, on comprend la frustration, c'est sûr. Malheureusement, comme je dis des fois, on ne peut pas en mettre un dehors pour en prendre un autre, ce serait trop facile. Mais c'est pour ça qu'on essaie de mener au maximum des actions sur le terrain, quitte à des fois laisser nos patients une journée sans soins et d'essayer en tout cas de proposer des missions de prévention à l'extérieur pour les gens justement qui n'ont pas accès à nous.
À qui s'adressent en premier lieu ces journées nationales d'action contre l'illettrisme?
Alors ça s'adresse, on n'est pas les seuls à organiser ce genre d'action contre l'illettrisme, on est quand même pas mal d'associations, il y a beaucoup de monde en fait qui a une action labellisée pour ces journées-là. C'est vrai que l'année dernière, c'était pas du tout ce qu'on faisait sur les journées nationales, parce que l'année dernière, on avait une action en maison d'assistante maternelle même semaine. Et on envoyait des bénévoles, des orthophonistes bénévoles, à la rencontre des assistants maternels qui le souhaitaient pour, pareil, faire de la prévention, langage, des tout-petits. Et cette année, on a décidé, au vu de la recrudescence de tout-petits sur nos listes d'attente qui sont sans langage, on a décidé de changer l'action, de mettre une nouvelle action en place. Et cette fois, que les parents bénéficient de nos conseils directement.
Alors, voilà. C'est surtout pour les... Ça s'adresse, surtout aux plus petits?
Oui, cette année...
C'est-à-dire de quel âge
Là, on est sur une action de 0-3 ans. Oui. Donc, dès la naissance, c'est pas interdit. Au contraire, c'est un moyen de venir et d'avoir des petites clés, peut-être, si on n'est pas très assuré dans ce qu'on fait pour le développement de notre enfant. Et 3 ans, pareil, pour les parents qui seraient inquiets, peut-être, qui auraient des doutes sur le développement du langage de leur enfant, ou bien simplement qui aimeraient avoir de nouvelles activités, des choses qu'ils peuvent mettre en place à la maison auxquelles ils ne pensent pas forcément. Et nous, de conseiller ce jour-là, peut-être d'éviter surtout à ce que ces enfants-là, demain, arrivent sur nos listes d'attente.
Oui, alors Lydie Marin, quel constat vous faites chez les tout-petits, ces enfants qui viennent vous consulter, ces tout-petits, on va dire donc de 0 à 3 ans, voire peut-être jusqu'à 5 ans. Quel constat vous faites ?
Alors, il y a deux types d'enfants, en fait. Il y a des parents qui s'inquiètent, et là, on donne pas mal de conseils de prévention. On les reçoit pas forcément en rééducation, mais le bilan nous permet, grâce à un gros questionnaire avec les parents, de voir un petit peu comment ça se passe à la maison, qu'est-ce qu'ils font, combien d'heures d'écran par jour l'enfant a à sa disposition. La dernière fois, j'ai eu une maman au téléphone, je posais la question, mais combien de temps pour un enfant de 3 ans qui avait du mal à parler, à peu près le temps d'écran. Elle me dit, oh, légèrement. Je dis, madame, légèrement, pour vous, c'est combien de temps par jour? Oh, 3 heures. 3 heures d'écran pour un enfant, c'est énorme.
Pour un enfant de quel âge ?
Il avait 3 ans.
3 heures sur un écran pour un enfant de 3 ans ?
Voilà. Donc mais ça,
c'est
non.
Pas,
donc,
c'est pas le... Pardon ?
C'est pas le pire.
C'est pas le pire.
Non, c'est pas le pire. Ben non. Et donc, quand nous, on a le temps, les orthophonistes, de décrocher le téléphone, parce qu'effectivement, le téléphone sonne, mais si on est en consultation, c'est compliqué. Mais... quand on a le temps, on décroche et on explique aux parents que l'enfant, les compétences de l'enfant sont là. Il faut les stimuler, il faut les développer. Dès très petit, l'enfant est capable de développer pas mal de choses grâce à l'interaction qu'il aura avec les gens qu'il aura autour de lui. Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa cousine, sa tante, les moments de partage à la maison, les jeux ensemble, les activités à la maison. Quand le parent est en train de préparer à manger, il peut tout à fait emmener son marmaille avec lui et lui dire, je suis en train de... Regarde, papa est en train de découper les fruits, en train d'éplucher les légumes. Oh, regarde la tomate, elle est rouge, elle est belle. Enfin, voilà, donc toutes les activités de la vie quotidienne peut être prétexte à parler et à échanger avec son enfant pour qu'il puisse développer ses compétences. Donc on a ce style d'enfant qui arrive, donc on donne des conseils aux parents, et puis il y en a d'autres qui viennent parce qu'ils ont des troubles, les troubles de l'oralité, des syndromes génétiques, troubles de l'alcoolisation fœtale, enfin voilà, plein de choses qui gênent le développement des compétences de l'enfant. Et là, effectivement, on met en place une rééducation avec le parent et on travaille pour faire avancer les choses sur le bon chemin, entre guillemets, pour ses enfants.
Oui, en clair, il faut communiquer, il faut parler, hein. C'est ça, Mégane Naz.
Il faut interagir, il faut que les parents comprennent en fait que dès la naissance, le nouveau-né est déjà équipé en fait d'habiletés qui vont lui permettre de développer son langage, simplement. Il ne faut pas se dire qu'il est petit, il ne comprend pas. Au contraire, il interagit déjà avec l'adulte. L'enfant va interagir avec des pleurs, avec des cris, oui. Et il va surtout... il va en tout cas s'intéresser aussi à ce que l'adulte lui propose, c'est-à-dire le son de la voix en lui parlant, le consolant. Juste ça, en fait, c'est suffisant pour que l'enfant entre en fait dans l'interaction, et ce qui va lui permettre de développer les compétences ensuite pour l'entrée dans le langage. Donc il faut que les gens comprennent que les premiers mois de la vie, c'est la communication et le désir de communiquer qui sont à susciter. Donc, par le regard, simplement, le sourire, l'attention qu'on lui porte, l'écoute, l'enfant, il va être dans l'imitation au départ. Donc, avec cette interaction qu'on va lui accorder, l'enfant va commencer à développer ses compétences. Et même s'il ne parle pas, c'est comme ça qu'il va commencer à comprendre pour ensuite développer son langage.
On a eu un exemple tout à l'heure, avec Lydie Marin, c'est-à-dire un enfant de 3 ans qui passe 3 heures devant un écran. Et vous disiez que c'est pas... Il y a pire.
Oui, j'ai eu le cas d'enfants qui se lèvent le matin, qui sont déjà devant des écrans, qui dorment le soir, qui sont toujours sur des écrans et qui s'endorment avec l'écran. Et j'ai des parents, des fois, qui me disent « Tiens, dans le milieu de la nuit, quand je me lève, je pensais qu'il dormait, mais il est devant la télé. » Donc, ils sont petits, mais ils arrivent déjà à manipuler tout ça parce qu'ils en ont eu déjà l'habitude. Ce que je dis moi aux parents, en fait, lors des bilans, parce que c'est une question qui est récurrente, enfin qui est systématique même d'ailleurs. Combien de temps devant les écrans? Ben, quand on a la réponse, et ben, ou bien simplement en bilan quand l'enfant ne sait pas produire un mot sur une image.
Sur un objet, une image. Voilà. Par exemple, un animal qu'il a vu à la télé, etc. L'enfant sera incapable de dire c'est quoi?
Oui. C'est ce qu'on appelle le signifiant et le signifié. Il a le signifiant.
Oui.
Pardon, il a le signifié, c'est-à-dire l'image. Et pas le signifiant, le mot.
Le mot.
Voilà.
Et alors, que dit le parent?
Bah, le parent a tendance à dire, mais si, tu sais, dis-lui, tu vois dans la télé.
Dis-lui, tu vois dans la télé.
Oui, c'est ce que tu vois dans la télé, tu sais. Et au final, c'est là où j'ai tendance à répondre aux parents que la télé ne répond pas. Donc, si on ne lui dit pas que c'est un crocodile qui voit la télé, il ne saura pas produire, en tout cas, voilà. Donc, c'est mettre des mots, en fait, sur tout, et c'est banal, mais sur tout le quotidien. Qu'est-ce que tu manges? Tu vois, maman a mis du riz dans ton assiette, tu vas manger du poulet. Viens, on va faire un petit gâteau, on va mettre de la farine.
C'est du poulet.
Oh, oui.
C'est ça, c'est du poulet.
Oui, c'est de la viande,
c'est pas de
du poulet.
C'est pas...
Non, mais voilà. on va peut-être
c'est
pas.
Du poulet.
Allez, on va dire que bon, pour être un peu grossier, mais c'est bien toujours de complexifier un petit peu le vocabulaire, même si on va le ramener sur c'est de la viande. Mais on va quand même donner une petite info supplémentaire parce que c'est ce qui va lui permettre de développer au final son vocabulaire mieux, voilà, simplement. Mais c'est surtout. Même si on n'a pas forcément le temps de dire qu'on ne va pas s'asseoir 5 minutes avec son enfant, lire une histoire, c'est pas facile pour tout le monde. Hein. Mais saouler votre enfant, parler à votre enfant.
Saouler votre enfant avec les mots. Mais alors vous imaginez ce que vous êtes en train de dire.
Je suis une mauvaise donneuse de leçons et j'en suis pas une. Mais c'est vrai que j'ai tendance à dire, j'ai pas moi forcément le temps quand j'arrive le soir parce qu'on a des horaires quand même assez particuliers parfois. Mais j'ai saoulé mon enfant
avec
sa naissance.
Mots.
Je pense qu'elle était dans mon ventre,
avec
je la saoulais déjà. Donc voilà, mais c'est tout bête. Mais même avec son bébé, en fait, il a une semaine, un mois, mais juste en fait, chantonner ou bien sourire, lui parler. L'enfant, il s'imprègne de ça. De toute façon, ils vont toujours commencer par imiter l'adulte pour apprendre. Ouais. Mais si on ne lui montre pas, il ne comprendra pas.
Chers auditeurs, on s'adresse à vos parents. Vous avez la parole ce soir sur Réunion la Première. Nous sommes en compagnie de Mégane Naz et de Lydie Marin du syndicat des orthophonistes de la région Réunion. À la Réunion, donc, plus de 110 000 Réunionnais sont concernés par l'illettrisme. Comment expliquer cette situation? Quelles en sont aussi les causes chez les plus jeunes? Eh bien, quelles conséquences? On parle d'échec scolaire, d'exclusion sociale. Votre sentiment au 02 62 99 2000 et puis les solutions, surtout pour éviter d'arriver à cette situation. Jean-Claude Toison est avec nous au téléphone. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir Claude, bonsoir les orthophonistes qui sont là.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association Dissemblables. Votre fils s'appelle Thibaut, donc il a été suivi. Est-ce qu'il est suivi toujours par l'orthophoniste?
Alors, il a été suivi pendant fort longtemps, puisque depuis l'âge de 8, 20, 10 ans. Il y a eu ses premières séances avec les orthophonistes, puisqu'il avait du mal à entrer dans la lecture et dans l'écriture, et voire même au niveau des calculs. Là aussi, les orthophonistes le font, concernant la dyscalculie. Et il a été suivi jusqu'à l'âge de ses 16 ans, 16-17 ans. Donc, avec des séances régulières, à une séance par semaine, et on a augmenté la dose puisqu'on voulait, on a toujours voulu qu'il puisse entrer dans la lecture. Donc, on est passé à 2 séances par semaine et on s'est arrêté sur une prise en charge au bout de, après ces 16 ans, 16-17 ans, et donc plus d'orthophoniste pour l'accompagner. Et je dirais que ils ont fait un super boulot, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Malheureusement, l'entrée dans la lecture jusqu'à aujourd'hui reste encore compliquée, même s'il a eu son bac là dernièrement et qu'il est en BTS. Et ça traîne toujours derrière lui, puisque même là, à la rentrée, là, on est à une semaine et demie, là, je crois, de la rentrée.
Il est en BTS.
Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Où les profs n'arrivent pas à comprendre, encore une fois, comment quelqu'un n'arrive pas à entrer dans la lecture. Donc moi, en tant que président, je disais ce soir, ça allait être une opportunité pour moi, c'est de demander au secours là aux orthophonistes pour qu'on ait un langage, pour essayer de faire comprendre aux autres qu'entrer dans la lecture, c'est peut-être pas quelque chose si évident que cela, et comment les expliquer aux enseignants, puisqu'ils n'arrivent pas toujours à comprendre, et d'autant plus sur les profs de langue, qui reste vraiment assez dubitatif devant cela, et ils n'arrivent pas à comprendre comment tu fais pour ne pas pouvoir lire. Donc, essaie.
À cet âge-là, par exemple, c'est ça.
Ah
hein
oui, à 19 ans, tout à fait.
Il a 19 ans. Hein. Alors, d'après ce que j'ai compris, il a consulté seulement vers l'âge de 8 ans, 9 ans. Est-ce que c'était pas un peu tard, Jean-Claude Toison?
Ben, le souci déjà dans un premier temps, c'est il parlait, donc il y avait pas cette alerte là. La seule solution, et on continue à le faire d'ailleurs, les enseignants nous orientent souvent des fois quand il y a des difficultés d'apprentissage, vous le disiez tout à l'heure, vers la première des personnes qui serait une orthophoniste ou un orthophoniste pour pouvoir consulter. Et là aussi, ça crée de gros embouteillages, puisque des fois, c'est pas là où il faut y aller. Mais bon, quand ça fonctionne, comme ça a été le cas pour Thibaut, à partir de là, on a pu comprendre qu'il y avait d'autres soucis tels que les troubles dys que j'ai pu découvrir justement grâce à une orthophoniste à l'époque.
Lydie Marin, votre réaction après ce témoignage de Jean-Claude Toison, je rappelle que c'est le président de l'association Dys Semblables.
Eh bien, tout d'abord, je souhaitais dire toutes mes félicitations à votre fils pour l'obtention du bac.
Merci.
Et l'entrée au BTS. Vraiment, bravo à lui. C'est vrai que quand on a des troubles, alors il faut savoir que les troubles dys, on a eu un changement. Grâce aux avancées scientifiques, on a des noms qui changent, mais la problématique reste pareille. Les troubles dys touchent la lecture, la dyslexie, l'orthographe, la dysorthographie, le nombre, l'accès au nombre et au calcul, la dyscalculie, et du langage oral, dysfonctionnement, on appelle ça dysphasie, on appelle ça aujourd'hui trouble développemental du langage. Tous ces troubles dys sont en fait des troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire que le cerveau se développe de façon différente et en fait ne permettent pas au processus de s'automatiser. Donc en fait, la lecture, c'est un processus qui s'apprend, l'écriture, c'est un processus qui s'apprend, le langage, enfin, langage, calcul, etc., ce sont des processus qui s'apprennent, qui se mettent en place et qui, au fur et à mesure de l'expérience et de la compréhension de l'enfant, s'automatisent. Mais dans les troubles dys, ça ne s'automatise pas. Et ça, ça ne s'automatise pas. Et donc, du coup, ça va nécessiter plus d'efforts, plus de mémoire, plus d'attention, plus de concentration à l'enfant pour pouvoir déchiffrer, lire et comprendre, mettre en mots écrits sa pensée, résoudre des problèmes et comprendre les nombres et le langage oral. Et donc, effectivement, certains enseignants alors, je trouve qu'en 2022, quand même, qui ne comprennent pas encore les troubles dys, je ne comprends pas.
Moi comment, non plus, comment je comprends alors, pas. Comment l'expliquer, ça?
Que oui, les enseignants ne comprennent
les,
pas
oui, que les enseignants, oui.
Ah bah, il faut leur poser la question, je ne sais pas.
Vous n'avez jamais l'occasion d'échanger avec le corps enseignant, les Dimara?
Ah,
vous,
si.
Les orthophonistes?
Si, des fois, j'ai... Ben, si, bien sûr, quand on a l'occasion de discuter avec eux, on leur explique le trouble, on leur explique pourquoi, on leur explique les difficultés de l'enfant, du coup. Alors, certains comprennent et sont plus enclins à mettre en place plus facilement des aménagements pédagogiques au sein de leur classe pour ces élèves en difficulté. Mais d'autres, comprennent pas. Alors moi j'avoue que j'ai pas le temps d'aller voir comment se forment les enseignants, est-ce qu'ils ont des modules développement de l'enfant, développement de la lecture, de l'écriture, est-ce qu'ils ont des modules, ça serait peut-être intéressant que les orthophonistes aillent informer les étudiants enseignants sur c'est quoi les troubles dys, etc., pour qu'ils puissent mieux comprendre les difficultés des élèves qu'ils auront en classe plus tard pour leur proposer des aménagements pédagogiques pertinents. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne comprennent pas. En tout cas, je sais qu'il y en a certains qui comprennent, qui sont très à l'écoute, qui essayent de mettre plein de choses en place, et c'est génial. Après, il y en a d'autres où la communication est beaucoup plus difficile et des fois, j'ai été obligée de me battre pour mes patients auprès de l'équipe pédagogique pour qu'ils mettent en place des aménagements pédagogiques pour mes patients.
Auprès de l'école, absolument.
On se bat souvent.
Oui, Jean-Claude.
Oui, on se bat souvent, régulièrement. Et là, je vous le dis, hein, il est entré en BTS. Et d'ailleurs, après, il y a plein de soucis administratifs où les dossiers ne sont pas transmis, les PPS ne sont pas transmis.
Donc, les PPS, on reprend. Oui, Jean-Claude.
C'est un plan de suivi autour de l'enfant personnalisé pour tout ce qui est aménagement avec une reconnaissance du handicap derrière, où il a une AESH qui devrait être avec lui et qui n'y est toujours pas, pour des causes administratives. Et on reprend chaque année scolaire, là aussi, ce même combat où qu'en plein cours, on arrive et on humilie le marmaille, on commence à le décourager. Thibaut, il est briefé. Hein, ça fait quelques années qu'on est avec lui. Il sait que il y a les parents, il y a plein de monde qui le soutient. On connaît des semblables aujourd'hui. Hein, tous les écoles, tous les établissements de La Réunion en parlent. Mais je vous disais, on n'arrive pas à faire comprendre ce fameux souci qui est le trouble d'apprentissage, de les faire comprendre à ces enseignants-là. Et surtout, je vous disais, surtout en anglais. Alors quand c'est difficile en français, n'en parlons pas l'anglais. Les langues étrangères, ça a toujours été l'un des combats. Je ne sais pas s'il y a une traduction bien spécifique en anglais, en espagnol ou en allemand pour pouvoir justement expliquer ce fameux trouble 10 à ces enseignants-là. Mais on a quand même... De toute façon, la différence, quand elle est non visible, on a du mal à l'accepter. On devient plus que symptomatal, hein, pour le coup, hein, puisque comment on a nos doigts, on a nos yeux. On lui a même conseillé d'aller voir un ophtalmo. Ça va rien changer. Donc voilà.
Que vous inspire ce témoignage, Megan Nass?
Oui, je vais reprendre ce que Lydie a dit. Effectivement, au niveau du corps enseignant, c'est un manque d'information, de formation peut-être. Et puis, je pense que ce serait bénéfique, en fait, qu'il y ait ça mis en place. Ça éviterait, en fait, les mauvaises orientations, simplement. Parce qu'à partir du moment où l'institutrice va en parler... Le parent, lui, les parents qui sont investis, ils vont tout de suite en fait essayer d'aller récupérer une ordonnance avec le médecin traitant, contacter l'orthophoniste, etc. Et il faut savoir que à l'heure actuelle encore, on a des fois des demandes. Oui, la maîtresse a dit qu'il est dyslexique, il est en maternelle. Donc, à savoir qu'un enfant en maternelle, même à l'entrée primaire d'ailleurs, ne peut pas être dyslexique pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas encore fait son entrée dans le langage écrit. Donc, il ne peut pas avoir des problèmes sur quelque chose qu'il n'a pas encore appris. Donc, c'est important parce que je pense que mine de rien, c'est quelque chose qui rallonge parfois nos listes d'attente et les gens, on comprend la frustration parce qu'ils sont déjà inquiets de l'information qu'ils ont reçue. Donc derrière, forcément, on essaie d'harceler une orthophoniste et on ne l'a pas, donc c'est encore plus frustrant pour qu'au final, on s'entende dire deux ans plus tard, oui, mais madame, mais il est encore en maternelle. Donc non, s'inquiète pas tout de suite. Il n'a pas encore appris à lire, il n'y avait pas de dyslexie. Enfin, voilà, c'est compliqué. Donc je pense que oui, le corps enseignant, qui sont très bien, ils font leur travail comme tout le monde. On n'a rien à dire, en tout cas, sur leur boulot. Mais c'est vrai qu'il y a cette information qui est importante, même pour nous, au final, et ça nous éviterait surtout cette rallonge et d'inquiéter les gens en fait au préalable, ce qui n'est pas nécessaire quoi.
Alors Jean-Claude, Thibault a consulté plusieurs orthophonistes.
Alors lui, à chaque fois, il est né sous une belle étoile, enfin une bonne étoile, je ne sais pas comment dire. En tous les cas, on a gardé la même pendant quasiment tout son parcours de traitement.
Ah d'accord, vous avez gardé la même.
Okay. Voilà. Et lors de la dernière année, elle est rentrée à nouveau en métropole. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Mais il a pu lui garder la même orthophoniste pendant quasiment tout le parcours. Malheureusement, il y a un turnover là aussi qui est assez important. Et là, je parle avec ma casquette de président d'association, puisque on est en contact avec tout le monde autour de l'île. Et surtout, on a un gros désert médical qui est dans l'est, malheureusement, où c'est nettement plus compliqué là aujourd'hui d'avoir un orthophoniste pour pouvoir se faire soigner, surtout pour les enfants. Et autre chose là aussi, et il y a beaucoup de parents malheureusement, et là j'en profite, s'il y a des parents à l'écoute, des fois qui vont s'opposer à des suivis puisque les séances se font sur des heures de cours.
Oui, ça alors, et ça j'ai aussi, appris et ça pose voilà. problème hein, pour les parents.
Et ça aussi, ça pose problème. Ouais. Et moi, je peux vous dire que j'ai eu aucun complexe. Ouais. à l'envoyer même pendant les heures scolaires. On essayait toujours de s'arranger en fin de journée ou à la mi-journée, histoire d'essayer de moins le faire perdre de cours. Mais ça aussi, ça reste un très très gros souci de s'organiser. Donc c'est pour ça que des fois on demande d'avoir des classes un peu spécialisées avec des professionnels de santé qui s'y trouvent. Si je ne me trompe, je crois que ça s'appelle des ULIS, si je ne dis pas de bêtises. Et des ULIS à La Réunion, il n'y en a pas beaucoup.
Oui. Alors je ne pense je ne pense pas que dans les classes ULIS il y ait des orthophonistes. En fait, c'est plus les classes ULIS, je crois que ce sont des enseignants spécialisés qui ont fait un cursus en plus pour apprendre à mieux apprendre aux enfants en difficulté avec des troubles. Vous parlez peut-être plutôt du CESTAD.
Alors, décryptez pour nous, s'il vous plaît, Lydie Marin. Alors, vous parliez d'ULIS, ce sont les unités localisées hein, d'inclusion scolaire. Et puis, alors, vous parliez de...
Des CESAD. Les CESAD, en fait, ce sont des structures dans les écoles, mais qui mettent à disposition de certains enfants des paramédicaux, comme des kinés, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthophonistes, et qui travaillent, en fait, sur un projet avec l'enfant, mais qui font leurs séances dans la structure, dans l'école. Mais c'est des structures, c'est des petites structures qui ne peuvent accueillir que très peu d'enfants. Et c'est le seul cas où l'orthophoniste, les séances d'orthophonie se feront au sein de l'école.
Au sein de l'école.
Parce que l'enfant a intégré le CESAD. Les orthophonistes ne sont pas dans les écoles.
Les orthophonistes se mobilisent pour lutter contre l'illettrisme, ce fléau de notre société avec plus de 110 000 personnes concernées, petits et grands. On s'explique ce soir sur Réunion La Première avec nos invités. Vos réactions au standard au 02 62 99 2000 et également sur les réseaux sociaux. Bonsoir Élodie.
Bonsoir Claude, bonsoir à tous. Et les internautes donnent leur sentiment sur l'illettrisme ce mercredi, un sujet à prendre au sérieux car la situation est qualifiée de catastrophique à La Réunion. C'est ce qu'on nous dit dans les commentaires. Comment l'expliquer ? Pas tellement de réponses, mais Gilbert par exemple pense qu'il y a une faille dans le système éducatif ou peut-être un manque de volonté de faire évoluer les Réunionnais dans le bon sens. Il y a un réel problème d'apprentissage avec l'école si ce taux d'illettrisme est élevé. Sylvie ne comprend pas pourquoi autant d'illettrés chez nous. Elle écrit et pourtant l'école est gratuite et obligatoire. Elle estime que nous sommes en 2022 et qu'aujourd'hui, un enfant a tous les outils nécessaires pour apprendre à lire, à écrire correctement. Patricia suggère de passer par le créole pour aider les enfants dès la maternelle. Elle est persuadée que ça pourrait aider à inverser la tendance pour aider jeunes et moins jeunes. Nous avons aussi besoin d'orthophonistes, mais on connaît la situation sur notre île. Il n'y en a pas assez et pourtant, il y a de la demande. Cela peut aller jusqu'à 3 ans d'attente, vous l'avez dit, pour un rendez-vous. Alors qu'il y a urgence, Marie, elle a fait sa demande dans l'Ouest, elle n'a 4 ans et jusqu'à l'heure, elle y attend de même. Aurore attend toujours depuis le CE2, sa fille est en 4e maintenant. Elle rajoute « Vive le tampon ». Et nos internautes ne trouvent pas ça normal qu'il n'y ait toujours pas de formation orthophoniste sur l'île. Pour Chrysélis, il faut orienter nos jeunes sur ces métiers dont on a tant besoin, comme les kinés, les orthophonistes ou encore les podologues.
Alors sa fille était en CE2, c'est ça? Elle est
aujourd'hui en 4e et jamais eu de rendez-vous dans le
Aucun
sud.
Rendez-vous chez l'orthophoniste. Oui, Lydie Marais, une réaction s'il vous plaît.
Oui, alors du CE2 à la 4e, ça nécessite quand même plus d'informations. Je ne pourrais pas en dire plus, je ne sais pas, je ne connais pas la famille.
Mais ça peut arriver, ça?
La preuve, oui, ça. Ah, oui. Mais on ne sait pas pourquoi. Peut-être que l'orthophoniste a rappelé, mais que la personne a changé de numéro de téléphone et que n'a pas mis à jour son numéro de téléphone sur la liste d'attente. Donc du coup, l'orthophoniste est passé à autre chose. Il y a eu un turnover dans au cabinet. Il peut y avoir beaucoup d'explications, donc on ne va pas tous les énumérer. Mais c'est étrange, quand même. Je voudrais aussi relever le fait qu'il n'y ait pas encore d'école d'orthophonie sur l'île. C'est un projet qui est sur le tapis depuis quelques années. Ça avance beaucoup cette année. On a une équipe du SOR dessus, une équipe de l'URPS orthophoniste aussi, donc l'Union régionale des professionnels de santé orthophonistes, qui sont en lien avec le rectorat, la fac, l'université, pour mettre tout ça en place. en lien aussi avec la Fédération nationale des orthophonistes. Donc, il y a toute une équipe dessus. On est en train de la monter. Ça prend du temps, mais ça avance. Ça avance très bien cette année et dès qu'on aura plus d'informations à vous fournir, notamment sur l'ouverture de ce centre de formation universitaire en orthophonie, nous ne manquons pas de vous contacter pour en reparler à l'antenne avec grand plaisir. Mais c'est une des solutions pour améliorer l'accès aux soins, oui. Mais ça va être 5 ans d'études, donc les nouveaux orthophonistes pays vont pas sortir tout de suite, mais le dossier avance bien.
Alors,
et on espère une ouverture. Prochaine.
Alors qu'il y a urgence, il faut parfois patienter jusqu'à 3 ans.
Il y a urgence depuis des années.
Oui, depuis des années. Mais alors oui. Ce n'est pas spécifique à la Réunion, hein, c'est sur le territoire national, c'est aussi la même.
Tout à fait.
La même situation.
C'est la même situation. Ouais.
Je reviens un instant sur le message de Sylvie qui dit que nous sommes en 2022. Mégane Naz est aujourd'hui un enfant à tous les outils qu'il faut donc pour apprendre à lire et écrire correctement.
Ils sont équipés, oui, mais il faudrait qu'on leur montre parfois comment s'en servir. Donc encore une fois, on reste dans de la stimulation. Il faut que les parents prennent conscience aussi que oui, l'éducation scolaire, ça se fait à l'école, mais il y a quand même le reste, c'est le parent. Et c'est avant tout le parent, j'ai envie de dire. Donc il faut utiliser les moyens qu'ils ont et surtout s'intéresser aux moyens supplémentaires qu'on essaie de mettre en place, en tout cas, pour améliorer tout ça.
Jean-Claude Toison, le fait qu'aujourd'hui, les orthophonistes lancent ce combat contre l'illettrisme, pour vous, c'est une très, très bonne chose. Jean-Claude ? Est-ce qu'il est avec nous, Jean-Claude Toison, on va le rappeler. Donc, on est bien d'accord, vous partez, vous engagez un combat contre l'illettrisme.
Toujours, je pense que de toute façon, dans notre profession, c'est un béaba. Hein. On est dans de la prévention, simplement. On aimerait que ça marche pour tout le monde. Donc, forcément, on essaie de se mettre un petit peu dans tous les combats à partir du moment où ça concerne notre profession. Voilà. Et si vous permettez, Claude, je voudrais juste revenir sur cette histoire de temps scolaire, les séances sur le temps scolaire. Alors ça va être rapide, simplement on a tendance à faire venir les petits le matin et il y a une explication à ça, l'attention des petits c'est le matin, donc oui. S'ils viennent en séance à 4h l'après-midi, les tout petits maternels, on n'en tire plus rien, ils ont déjà mangé, c'est l'heure de la sieste, donc c'est plus la peine. Si on ne travaillait que sur des mercredis et en soirée, on n'aurait pas de vie. Donc, ce n'est pas possible. On essaie de... Et on aurait plus de 3 ans d'attente. Ça, c'est une certitude. Mais voilà, il y a des raisons pour ça. C'est du soin. Donc, il n'y a pas d'interdiction de sortie d'école pour du soin. Donc, voilà, c'est pour ça. On n'organise pas nos plannings en fonction de nos exigences à nous, forcément. C'est vraiment, des fois, en fonction des capacités de l'enfant à l'instant T. Donc, on ne demandera pas à un tout petit de venir l'après-midi.
Oui, en fonction de l'urgence aussi, peut-être, non ?
Oui, c'est vrai, oui. Que des fois, on a tendance à dire que les post-hospitalisations, ce sont des urgences. Donc, effectivement, quand on a des listes d'attente et que l'hôpital nous appelle en disant « on a une personne qui a fait un AVC », les premiers jours, les premiers suivis sont les plus importants. Les jours qui suivent en fait la sortie de l'hôpital, c'est un moyen de récupérer plus vite. Donc forcément, pour nous, ça devient des urgences. Les post-hospitalisations deviennent de grosses urgences et passent souvent avant la liste d'attente. Et c'est ce qui fait que, au final, ça avance pas. Voilà.
Oui, Jean-Claude Toison vous a retrouvé. Le fait qu'aujourd'hui les orthophonistes partent en guerre contre l'illettrisme, pour vous, vous saluez ce combat qui est mené?
Je dirais que dans moi mon âge là déjà, j'ai un âge assez avancé, même bien proche du demi-siècle bientôt. Donc à l'époque là aussi, il y avait des personnes qui étaient porteuses aussi de troubles dys et qui n'ont jamais été détectées et qui n'ont jamais eu la possibilité justement d'entrer dans les apprentissages et qui sont restées là aussi totalement à part et perdu dans leur monde, quoi. Et souvent des fois on a encore nous et là on arrive à le voir puisqu'on reçoit des parents. Alors je sais pas si c'est comment dire, si c'est héréditaire, mais on arrive à avoir des enfants, enfin des parents qui viennent nous voir, et au fil de notre conversation, on comprend très vite qu'ils étaient aussi eux-mêmes porteurs du trouble 10 et qu'aujourd'hui, ils ne sont pas entrés dans les apprentissages, qu'ils ne savent pas lire eux-mêmes ou autre chose, hein, et qu'ils sont encore coincés, et d'autant plus pour pouvoir accompagner leur maman aujourd'hui. Mmh. Donc ça... je pense qu'effectivement, là aussi, dans les 100 000, je crois, illettrés que vous avez annoncés, il devrait y avoir quelques-uns qui sont aussi. Oui. Ouais, plus de 110 000, qui, il devrait y avoir quelques-uns qui sont porteurs de troubles 10, là aussi, à hauteur des 8-10 % qu'on annonce. Quoi.
Mais ça doit interpeller les petits marins, un enfant qui arrive au collège, et puis ou alors au lycée, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Ça interpelle.
Ah bah ça interpelle. Mais en ayant eu le cas, je ne sais plus, j'avais eu l'enseignante de collège en me disant mais comment ça se fait, comment c'est possible, qu'est-ce qui s'est passé en élémentaire. J'ai dit ben, appelez vos collègues de l'élémentaire et essayez de voir.
Oui.
Après, les difficultés sont peut-être passées inaperçues ou les difficultés, elles ont été vues. L'enseignant a discuté avec les parents et puis les parents ont dit « Oh ben non, l'orthophonie, non, il n'y a pas besoin, etc. » Ou « Oui, il y a besoin. » Et puis se sont rendus compte que bah, c'était pas si facile que ça d'avoir un rendez-vous chez l'orthophoniste. Et des fois, on laissait tomber aussi. On ne pas rappeler tous les mois parce que chaque cabinet d'orthophonie a sa façon de fonctionner avec sa liste d'attente. D'autres, certains doivent demander de rappeler tous les mois, puis d'autres pas. Et puis... Donc oui, ça interpelle un gamin qui arrive en collège et qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire. Mais tout s'explique. Il y a des explications quelque part. Il faut chercher, effectivement. Il y a plein de choses. On parle de 10, j'ai parlé des troubles 10, mais j'ai oublié de parler de la dyspraxie, les troubles de la coordination motrice. Mmh. Ça aussi, qui du coup, effectivement, engendre des difficultés dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et de tout ce qui est mathématique.
Ouais. Pour les parents qui nous écoutent, Mégane Naz, vous demandez à ces parents d'être surtout attentifs, de bien observer, de...
Par rapport à l'enfant ?
Par rapport à l'enfant.
Oui, d'être attentif, surtout d'être dans l'interaction. C'est ce qui est le plus important aujourd'hui, dans l'interaction avec son enfant, dans tous les moments du quotidien. Enfin, il n'y a pas de moment précis pour être attentif et faire attention à son enfant. C'est une permanence, en fait, simplement. Il faut de temps en temps, essayer de favoriser le développement du langage en lui accordant, en tout cas, des routines, des moments routiniers, comme le change, le bébé, au moment du change, maman change ta couche, la préparation du repas, le bain. Quand ce sont des bébés, faire attention à capter le regard, c'est important. Imiter les sons de l'enfant, imiter ce qu'il produit, parce que lui, ça va l'amuser. Et au final, il va entrer dans un jeu avec son parent, en fait. C'est simplement ça. Voilà, juste interagir avec son enfant, c'est lui permettre de développer ses compétences. Voilà, après c'est vrai que on va revenir dessus parce que l'action aussi elle parle du langage à travers les livres. Donc c'est aussi l'importance de ce support dans ce développement qui est important.
Qu'un écran.
Un livre contre un écran, tout à fait. Et c'est le message qu'on fait passer lors de notre action qu'on mène depuis plus d'une douzaine d'années maintenant avec la Fédération des orthophonistes, c'est un bébé un livre. Donc le troisième jeudi de novembre, généralement, toutes les orthophonistes se déplacent sur les maternités de Lille pour donner un livre aux nouveau-nés de ce jour-là. Malheureusement, on ne le fait pas tous les jours, ça c'est le troisième jeudi de novembre généralement. Mais voilà, c'est pareil, c'est de la prévention dès la naissance. Faire comprendre l'importance de ce livre-là qui va servir à plein de choses. Et puis on a beaucoup de livres aujourd'hui, on va avoir des imagés, on va avoir des livres qui font du bruit, c'est intéressant, les enfants ils aiment ça. Donc des petits livres doudous. Donc c'est vrai que là maintenant, depuis un bébé un livre, et je trouvais qu'en fait un bébé un livre c'était bien, une fois dans l'année c'est peut-être pas assez. Et c'est pourquoi cette action-là aujourd'hui sur 4 jours, parce que c'était vraiment montrer que le livre, mine de rien, c'est un support de communication. On va lire avec son enfant, on va montrer les images, on va lui demander de dire ce qu'il voit, lui donner le vocabulaire qu'il n'a pas aussi, et inventer ses histoires, lui demander aussi de reproduire, d'inventer. Vas-y, on ne lit pas forcément ce qui est écrit, mais on va décrypter les images avec lui, lui demander de lui aussi imaginer son histoire. Donc c'est tout ce qui va l'aider à construire en fait son langage.
Jean-Claude, de toute façon, est-ce que tous ces exemples donnés à l'instant par Mégane, orthophoniste, est-ce que, oui, vous les avez appliqués, vous, avec vos enfants ?
Alors je dirais même un peu trop, mais bon là quand même expliqué.
Jamais trop,
si c'est
jamais
trop. Et comme elle expliquait tout à l'heure, donc c'est un souci cognitif. Donc à partir de là, je pense que c'est le problème il est un petit peu différent. Et mais en tous les cas, quand il était jeune, de toute façon, je dirais que y a qu'à m'entendre aujourd'hui à la maison. La communication, elle était bien présente et elle y est toujours avec les enfants. Bon, comme je cause beaucoup, hein, donc c'est un peu normal. Donc ça se fait naturellement. Mais le souci cognitif, justement, a amené à ce qu'on a aujourd'hui. Et je voulais juste, puisque tout à l'heure, il y avait, si vous me le permettez, il y avait une petite coupure. Donc concernant là aussi le travail que nous, au milieu associatif, qu'on fait avec l'éducation nationale, puisqu'on arrive quand même à les avoir et à échanger, par le biais de l'association, si les orthophonistes qui sont présents là sur le plateau, qu'ils veulent là aussi nous accompagner, puisqu'on part à faire des sensibilisations dans le cadre de la formation continue, ça s'est mis en place depuis 3 ou 4 ans, avec les enseignants, donc ils peuvent nous joindre et moi je serais ravi de vous avoir à mes côtés pour aller justement sensibiliser les enseignants qui se préparent à devenir des enseignants spécialisés pour les enfants qui sont porteurs de différences.
Idée très intéressante,
mais avec plaisir.
Lydie Marin, oui, ce genre de partenariat peut-être.
Oui, tout à fait.
Oui.
Et donc, ces sensibilisations se font pour les enseignants spécialisés, c'est ça ?
Alors, non, oui, tous les ans, dans le cas de... Alors, KPI, je crois que ça s'appelle. Enfin, ils ont des sigles un peu spéciales, là, déjà.
Un peu trop de sigles.
Oui, un peu trop de sigles, oui, effectivement. Ils ont donc, justement, dans le cadre de cette formation-là, donc, on nous convie, nous, on est à 2 associations sur l'île, à venir, oui, justement, faire une sensibilisation de 2 à 3 heures, une fois par an, sur les enseignants qui se voient, justement, enfin, qui se dirigent vers l'enseignement spécialisé. Donc on les sensibilise justement, les futurs maîtres E et avec toutes les lettres qu'il y a là, voilà, E, G et tout ça. Donc on arrive à aller les sensibiliser et on nous demande de venir. Donc au travers de notre association, si vous voulez, vous pouvez le faire. Et coup par coup, il arrive où des établissements scolaires nous demandent de venir intervenir auprès de leur équipe enseignante. Et bon, nous dissemblables, c'est surtout un partage d'expérience, puisque nous on n'est pas des professionnels de santé, hein, on est juste des, on a été nommés par Dr Suss du CMPP parents experts. Donc on va tout simplement, donc ben le mien il a 19 ans, donc alors une experte, enfin expert comme moi, je dirais qu'il n'y en a pas beaucoup peut-être. Et on va partager justement nos différentes expériences avec les enseignants et voire même les parents qui veulent nous rencontrer. Des fois quand on est PADU, il arrive ou qu'on a aussi des fois dans notre réseau quelques professionnels de santé qui nous accompagnent lors de la caravane des 10. Qu'on met en œuvre, oui, tous les ans et qui nous permet là de rencontrer un maximum de familles. Des fois, sur 2 ou 3 jours, on rencontre facilement 300 à 400 personnes. Oh là avec là qui là on là va essayer de donner quelques petits conseils. Mais c'est sportif, je peux vous dire. Hein, elle n'est pas de tout repos.
Jean-Claude Toison, pour terminer, est-ce que vous pouvez laisser votre numéro de téléphone pour les auditeurs qui seraient intéressés pour vous joindre, s'il vous plaît?
Oui, alors donc l'association Dissemblables, déjà sur Facebook, et on a un site internet.
Vous avez une page, hein. Ça, c'est... Comme les orthophonistes, on a une page Facebook.
Voilà. Et puis un numéro de téléphone qui est le 06 93 031 306. Ça, c'est le numéro 031 306, 06 93, hein, c'est surtout ça, qui vous permettrait justement d'avoir d'ailleurs, quand vous allez appeler, c'est moi-même qui répond en général. Donc, pour pouvoir justement essayer d'apporter notre petite contribution et surtout au bien-être du marmaille au sein de l'établissement scolaire.
C'est ça le plus important, c'est pour le bien-être de l'enfant. Et je parle sous le contrôle de Lydie Marin, également Mégane Nanaz, qui sont orthophonistes. Merci à vous, Jean-Claude Toison. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Nous allons vous écouter dans un instant au standard de Réunion La Première au 02 62 99 2000.
17h-19h, on s'explique. Vos appels au 02 62 99 2000, vos SMS au 06 92 70 2000.
Dans quelques jours, les orthophonistes de La Réunion lancent les journées nationales d'action contre l'illettrisme. Ce sera du 8 au 15 septembre. On s'explique ce soir sur Réunion La Première avec nos invités Megan Naz et Lydie Marin. Juliette de Sainte-Suzanne, bonsoir.
Bonsoir Juliette,
Juliette, on a un petit peu de mal à vous entendre.
Oui, mais en fait, je me suis éloignée de la télé parce que la télé, elle est mise de côté. D'accord. En même temps, la base est du côté de la télé. Est-ce que là, vous m'entendez mieux ?
Oui, alors, mais on entend aussi la télé, là, j'ai l'impression.
C'est ça.
Bon, est-ce qu'il y a possibilité d'aller voilà. Dehors avec le téléphone ?
Non, mais
peut-être,
dehors avec le téléphone, non, la base est...
D'accord, la base est... Alors, soit vous... Alors, coupez la télé, tout simplement.
Oui, mais là, il y a quelqu'un...
D'accord, il y a quelqu'un qui regarde la télé. Bon... Voilà. Nous vous écoutons, Juliette. On va essayer de comprendre. Allez-y. Juliette. Aurélie, alors peut-être, qui est avec nous. Bonsoir, Aurélie. Oui, on a vraiment des petits soucis. Allô, Aurélie. Oui, on a perdu nos auditeurs. On va les retrouver dans un instant. Je reviens sur ces journées nationales d'action contre l'illettrisme. Megan Naz, oui. Alors expliquez-nous comment ça va se passer.
Alors on sera sur le pôle de la Rivière des Roches du jeudi 8 au dimanche 11 septembre. Donc la mairie de Saint-Benoît qui nous a gentiment accordé un local pour accueillir ces 4 jours. On aurait évidemment voulu le proposer sur plusieurs secteurs de l'île. Malheureusement, on n'a pas eu de retour d'ailleurs. Mais c'est vrai que bon, l'Est est quand même le bassin un peu plus touché, on va dire. Donc en soi, c'est très bien que les 4 jours se déroulent sur Saint-Benoît, enfin au pôle, la salle polyvalente de la Rivière des Roches. Ce jour-là, on proposera, alors ça va durer 1 heure. On va proposer 3 ateliers aux parents. Alors, un enfant accompagné d'un parent, parce que ça va être compliqué pour la logistique si on a trop d'accompagnants. Mais un enfant avec un parent, voilà, donc il s'inscrit avec son enfant. Et ce jour-là, on aura 3 ateliers. Un atelier de l'auto-sonore, par exemple. On va écouter des bruits, on va désigner des images, on va mettre des signes sur ces images. Ouais. Voilà.
Ça, c'est important, hein, les signes.
Oui, après... Bon, tout le monde ne le fait pas. Oui. Je pense qu'il y a de fausses idées, surtout sur cette langue des signes qui est associée souvent aux troubles auditifs. Voilà, la langue des signes est vraiment associée aux troubles auditifs. Et les personnes la trouvent soit inutile, soit pensent que ça va être un obstacle dans le développement normal du langage des enfants entendants, parce qu'ils vont se dire « oui, mais si, il n'y parlera pas ». Alors qu'il faut voilà, enlever cette inquiétude qui est légitime, mais qui est un mythe, et se dire que les signes vont être un support. Alors, il ne va pas apprendre à signer comme un enfant dont c'est la langue maternelle. Hein. Il y a des tout petits livres maintenant qui sont faits avec du vocabulaire de base où l'enfant va dire qu'il a faim, que c'est bon, qu'il veut son doudou, manger. C'est important. Moi, je me rappelle ma fille à 7 mois, manger. Enfin, c'était toute la journée. Donc, quand ils ont acquis quelques petits signes comme ça, il faut qu'on comprenne que la compréhension du langage est plus grande que la capacité d'expression de l'enfant au tout début. Donc, il n'aura pas la possibilité de s'exprimer verbalement. Mais s'il a acquis 2-3 petits signes pour nous dire « j'ai faim, je veux manger », à 7 mois, ils sont déjà capables de produire. Voilà. S'ils ont appris 2 petits signes, ils sont capables de les utiliser.
Nous allons revenir sur ces signes. Aurélie est avec nous au standard de Réunion La Première. Bonsoir Aurélie.
Oui, bonsoir. Donc déjà, je tenais à donner mon âge. Donc j'ai 30 ans aujourd'hui. Alors non, c'est pas aujourd'hui, mais cette année, j'ai quelques mois des 31. Mais
okay,
pas voilà, et je tenais à dire que moi, j'ai été détectée à 3-4 ans en tant que bègue dans la commune du Port. Et par contre, j'ai eu beaucoup de chance apparemment parce que j'ai un suivi plus de 10 ans. Très rapidement. Et par la suite, on a aussi détecté de la dyslexie. Et ça, par contre, ça m'a posé beaucoup de problèmes au collège parce que j'ai arrêté mon suivi en tant que bègue, on va dire, à la rentrée de 6e. On m'a proposé, alors imaginez une petite jeunette, on lui dit c'est bon maintenant, est-ce qu'on se voit encore une fois par an? Ben, moi, j'ai voulu arrêter parce que depuis 10 ans de suivi, on a envie d'arrêter. Oui. Que moi, personnellement, je parle à tous les becs, n'arrêtez pas. D'un coup. N'arrêtez pas d'un coup. Et c'est vrai que la dyslexie, malheureusement, c'est venu à partir de la 5e, 4e, où là, ça m'a vraiment posé beaucoup de problèmes parce que j'avais zéro suivi. Voilà. Et c'était mon témoignage, juste pour vous dire de pas lâcher l'affaire, qu'on peut réussir sa vie après. J'avais une maman, un papa qui travaillait, mais une maman très impliquée. Et c'est vrai qu'à un moment donné, surtout au collège, j'étais énormément renfermée. J'étais énormément renfermée parce que, c'est dommage parce que depuis tout à l'heure, je vous écoute, il n'y a personne qui en parle. C'est qu'en fait, le décrochage scolaire, c'est aussi un signe. On arrive au collège, on ne sait pas lire. J'ai envie de vous dire que si en CM1, CM2, on voit que les autres avancent et que nous, on n'y arrive pas, ben, on devient perturbateur de la classe. Et la maîtresse, elle ne lui donne pas envie. Hein.
Voilà. On devient un élément perturbateur.
Voilà. Et moi, j'étais un petit peu le contraire, c'est que j'étais la bavarde. Bègue, mais bavarde.
Bègue et surtout bavarde. Ah oui, voilà. Carrément. Donc aujourd'hui ça va beaucoup mieux, c'est ça Aurélie?
Oui, tout à fait. J'ai même fait un gros travail sur moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille avec du public directement. Je suis secrétaire médicale. Donc, je suis restée dans cette voie parce que quand on a côtoyé des professionnels de santé, j'avoue que ça nous oriente vers ce genre de spécialité. Donc, voilà.
Super témoignage, Aurélie. En plus,
oui, et ça ne m'a pas non plus empêchée de faire des études, même si j'ai dû passer par des chemins un peu plus longs. Mais quand on a un objectif, je peux vous dire que ça aide.
Et vous en parlez avec le sourire. Merci Aurélie pour ce témoignage. Merci à vous. Les commentaires de nos internautes Élodie.
Avec de nombreux parents en colère ou même désespérés, il faut absolument faire bouger les choses car il y a des besoins. Jessie cite en exemple les troubles comme la dyspraxie. Pour elle, la situation est catastrophique. Les internautes nous disent que c'est partout pareil. Ce n'est pas seulement dans l'Est que l'on doit attendre 3 ans pour obtenir un rendez-vous chez l'orthophoniste. Fanny écrit « Juste un bilan ortho pour les enfants, c'est la croix et la bannière. Il faut former nos jeunes là-dessus. Les internautes sont d'accord. Il faudrait peut-être les sensibiliser un peu plus à ce sujet, leur donner envie de se lancer dans cette profession. Le message de Jessica est le suivant. Chers jeunes, la Réunion a besoin de vous. Le souci pour Kanda, c'est qu'il y a très peu de place dans les facs françaises. Pareil en Belgique, ils pensent qu'il faudrait peut-être se rabattre sur les facs en Roumanie ou en Croatie. »
Merci Elodie. Les orthophonistes de La Réunion se mobilisent pour lutter contre l'illettrisme.
17h-19h, on s'explique avec Claude Montané.
À La Réunion, plus de 110 000 personnes sont concernées par l'illettrisme. Comment expliquer cette situation? La situation est également inquiétante chez les plus jeunes. Les conséquences, eh bien, on parle d'échec scolaire, d'exclusion sociale. On fait le point avec nos invités Mégane Naz et Lydie Marin du syndicat des orthophonistes.
17h-19h, on s'explique sur La Première.
Lydie Marin, vous êtes de retour avec nous. Vous êtes la présidente du syndicat. Mégane Naz, vous êtes la chargée prévention. Nous sommes là aussi pour mettre en lumière, évidemment, cette journée. Ces journées nationales de l'illettrisme. C'est pour bientôt, c'est du 8 au 15 septembre. Avant de revenir sur le témoignage tout à l'heure d'Aurélie, nous allons écouter Juliette de Sainte-Suzanne. Juliette, vous êtes là?
Oui, bonsoir.
Oui, vous êtes là, donc vous êtes avec nous. Oui. Nous écoutons, Juliette.
Oui, alors je suis professeur des écoles.
Professeur des écoles, très bien, bienvenue.
Oui. De toute façon, j'appelle tout le temps, mais bon, j'appelle...
vous appelez tout le temps,
là.
D'accord, oui.
Oui, en fait, moi, ça fait pas longtemps que je travaille, si on regarde les instituts, mais assez longtemps quand même, pour voir qu'il y a eu une grande évolution à l'école. Déjà, le public même change. Mais les mauvaises habitudes restent. Il y a la difficulté de discuter entre les enfants et les parents. Ça reste toujours le problème. Trappe ça, mange ça, donne ça, t'es bien. Il n'y a pas de structuration, d'accord, ni en créole, ni en français. Donc ça, c'est un grand problème.
Oui.
Deuxième problème, on est dans les générations des écrans. On a du mal à capter les enfants un minimum de temps.
Oui, oui.
Troisième problème, pour que ça concerne cette fois-ci les orthophonistes, je ne comprends toujours pas pourquoi le rectorat, donc le gouvernement en arrière, ne met pas en place un ou deux orthophonistes par groupe scolaire. Pourquoi ça n'existe toujours pas des orthophonistes à l'école ? Il faut qu'on aille quémander autour, qu'on aille supplier autour pour avoir de l'aide. Et nous ne sommes toujours pas formés, à part avoir deux papiers de polycopier à lire et à comprendre ce qui est écrit.
Juliette, vous imaginez où l'a besoin d'aide, enfin où les enseignants ont besoin d'aide, les parents ont besoin d'aide, et il y a au final très très peu d'orthophonistes à La Réunion.
À La Réunion, partout, je pense.
Question, aussi sur le territoire national. Je voulais rester avec nous, Juliette. Lydie Marin, sur le dernier point, puis on va les reprendre un après l'autre, mais sur le dernier point, est-ce que c'est notamment ce lien entre l'éducation nationale et les orthophonistes?
Non. Alors j'entends bien vos difficultés, Juliette, au niveau de votre formation, hein, vous dites que vous avez deux polycopiés à lire et c'est tout. Donc effectivement, je pense qu'on avait mis le doigt dessus tout à l'heure et il y a un manque de formation, en tout cas d'information auprès des enseignants sur les troubles, les différents troubles que les élèves peuvent porter et du coup engendre des difficultés dans les apprentissages des élèves. Là, il va falloir effectivement, enfin, il faudrait qu'on fasse quelque chose avec le ministère et la Fédération nationale des orthophonistes, voir si on pourrait pas proposer aux étudiants enseignants des formations, enfin pas des formations, mais des sessions de sensibilisation et d'information autour de ça. Maintenant, ensuite, les orthophonistes, je ne pense pas que la place des orthophonistes soit au sein des écoles. Or, c'est ça dont on en parlait tout à l'heure. Mais pourquoi, moi, ma question, Juliette...
Attendez, Juliette, oui. Oui, Lydie.
Ma question, Juliette, elle est celle-ci. Qu'est-ce que ça vous apporterait d'avoir une orthophoniste avec vous dans l'école?
En début d'année, nous avons les maîtresses E et G qui viennent diagnostiquer nos CP. Est-ce que j'entends bien? Est-ce que je prononce bien? Est-ce que ma langue est bien posée? Est-ce que... comprenez?
Oui.
En cela, déjà, c'est pas mal. Dans tout ce qui est aussi calcul, dans tout ce qui est geste. Après, il faudrait nous des psychomotes, il faudrait tout dans les écoles maintenant.
Est-ce que c'est vraiment notre place dans
Est-ce que c'est vraiment la place de l'orthophoniste?
Je ne dis pas que vous serez à 100% de vos horaires, mais en début d'année scolaire, ce serait vraiment poser le doigt sur des choses.
D'accord, peut-être pour... alerter quelque part, c'est ça, non?
Pas alerter, mais diagnostiquer des choses.
Diagnostiquer, peut-être. Oui, alors, Lydie Marin, c'est pas pour avoir l'orthophoniste tous les jours, tout au long de l'année.
Parce que l'orthée, c'est pareil.
Mais c'est peut-être aussi pour faire un peu de prévention auprès des enseignants et puis ensuite les parents.
Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a une expérimentation dans trois régions. De France. Il y a Non, je ne vais pas vous dire de bêtises, je n'ai pas les trois régions en tête. En tout cas, ça s'appelle le TP2O. C'est association orthoptiste et orthophoniste pour du dépistage chez les petits. Cette expérimentation, elle est en cours et elle est en train de. Elle a porté ses fruits dans une région et moins dans d'autres parce que ça n'a pas fonctionné. Mais l'objectif de cette expérimentation, c'est de faire passer tous les élèves un test orthoptique, donc mobilité des yeux, et orthophoniste pour voir un petit peu quels sont les enfants qui seraient susceptibles d'être porteurs de troubles, etc., pour pouvoir ensuite aiguiller les parents sur qu'est-ce qu'il faut faire en fonction des difficultés qui sont ressorties de ce dépistage. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'expérimenter pour essayer de se mettre en place au niveau national, justement, une coordination, une coopération enseignant orthoptiste et orthophoniste. Donc, c'est en cours.
Certains vous diront que c'est un peu tard, mais voilà, c'est sur la bonne voie. Alors sur les autres points, Juliette, vous parliez notamment des signes parfois que vous étiez quelque part un peu perdu, un peu désemparé, non, j'imagine, en classe.
Et surtout que les difficultés, les 10, il n'y en a pas qu'une.
Oui.
S'il n'y avait qu'une 10, un 10, on va dire, un 10.
Oui.
D'accord, mais il n'y a pas un 10. Et il y a des enfants qui cumulent des 10, donc on ne sait même pas dans quel bout faut prendre que commencer.
Et si les enfants sont suivis, je pense que vous pouvez vous mettre en relation avec la Cour des parents.
Ah, mais bon, encore faut-il qu'ils soient pris en charge.
Bah oui, mais...
Là, c'est le problème, c'est toujours vraiment pour toi, que...
On aimerait bien oui, dans les orthophonistes 974 pouvoir recevoir tous les gens qui en ont besoin.
Mais c'est pour ça que je disais, mais on peut pas en avoir une pour les écoles. Mais c'est le gouvernement qui va faire ça.
Oui, alors, oui, c'est pas alors, à vous, ça... Letty, hein, c'est demander au gouvernement, au pouvoir public.
C'est un problème que tout le monde sent et que tout le monde comprend, donc il faut le dire.
Oui, non, mais bien sûr, votre avis est important et c'est important de le partager, Juliette, avec grand plaisir. Mais après, les orthophonistes, c'est du soin. Les enseignants, c'est de l'instruction. Je dirais pas éducation, mais de l'instruction.
L'éducation, c'est les parents.
Et qu'il ne faut pas mélanger les deux. Et que si un enfant a besoin de séances d'orthophonie, on a besoin, nous, orthophonistes, on a besoin des parents. On a besoin qu'ils soient présents.
Mais de toute façon, l'école est en lien avec les familles, donc ça n'aurait pas marché sans autorisation familiale. Hein.
Mais je ne pense pas que la place de l'orthophoniste soit au sein de l'école. C'est important que ce soit dissocié. Et après, au niveau administratif, déontologie, éthique, le choix du praticien, enfin, il y a énormément de choses qui gravitent autour de ça. C'est pas juste, ça serait bien qu'on ait des orthophonistes à l'école pour aider les enseignants et pour aider les élèves en difficulté. Il y a administrativement et je vous dis éthiquement, déontologiquement, il y a des choses aussi qui tournent et qui sont pas possibles.
Juliette.
Oui, mais c'est toujours les lois, c'est toujours les lois.
Je comprends. Je comprends, mais vous avez aussi la réponse de Lydie Marin, qui est la présidente du syndicat des orthophonistes. Merci beaucoup, Juliette.
Au revoir.
Merci Juliette.
Merci à vous. Un mot quand même sur la plateforme que vous avez, c'est alloorto.com, Meganaz.
Oui,
alors. Je pense que c'est intéressant pour les parents qui nous écoutent.
Alloorto.com, c'est quand même assez récent. C'est un site qui a été créé pour faire le lien entre parents, aidants, patients, orthophonistes par exemple, et qui guide les parents dans les démarches nécessaires auprès des professionnels autour de leur enfant. Et qui propose aussi quelques bons gestes dans le but de limiter les difficultés de l'enfant, qui permettra en fait aux parents de prendre une décision, c'est-à-dire rendez-vous ou pas chez un orthophoniste.
Oui.
Voilà, c'est déjà un moyen d'avoir un guide quoi.
Oui.
Un petit guide. Voilà. Donc Alloorto, c'est vrai que c'est la plateforme, elle est récente, hein, mais c'est vrai que si voilà, en attendant qu'on nous rappelle, des fois ça dure un an, deux, trois, voilà, on va pas le redire, mais au moins ils ont cette possibilité là, alloorto.com, et il y a plein d'articles, des petits conseils, et voilà.
Si, dites-le qu'il faut patienter 3 ans pour avoir un rendez-vous. Dites-le, parce qu'il y a un manque d'orthophonistes.
Effectivement.
Il y a un manque, nous sommes d'accord, Lydie Marin, il faudrait beaucoup plus.
Ah ben nous, on attend le cargo, hein. On ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. On a hâte.
Avant de retourner au standard de la première, écoutez Liliane de Sainte-Marie, nous jetons un œil sur les commentaires laissés sur les réseaux sociaux, Elodie.
Et les listes d'attente sont de plus en plus longues quand on veut obtenir un rendez-vous chez l'orthophoniste. Pourtant, ces professionnels de la santé se mobilisent afin de lutter contre l'illettrisme. Martine nous dit que ce n'est pas le seul métier du paramédical concerné. Et les Réunionnais se posent beaucoup de questions. Marine demande à quoi sert l'éducation nationale alors, parce que 110 000 Réunionnais, ça fait réfléchir personne. Ils apprennent quoi à nos enfants dans l'école d'aujourd'hui? Aline aimerait que l'on arrête de tout mettre sur le dos de l'école et des enseignants. Et sa question à elle, c'est que font les parents? Les parents, eux aussi, doivent participer à l'éducation de leurs enfants. Je comprends que certains ont des difficultés à s'exprimer, mais encourager son enfant, prendre du temps avec lui chaque soir pour de la lecture, ce n'est pas négligeable. C'est bien dommage que beaucoup de parents préfèrent laisser leur marmaille devant la télé ou une tablette au lieu de leur consacrer ne serait-ce une petite demi-heure par jour pour échanger, communiquer tout simplement ou lire une histoire. Ce n'est pas compliqué à trouver une petite demi-heure. ailleurs dans la journée. Frédéric s'interroge sur le fonctionnement de l'école. Comment est-il possible d'amener un élève jusqu'en troisième avec de telles lacunes? Bien sûr, on a toute la vie pour apprendre, mais comment ces nombreux élèves en difficulté font pour passer de classe en classe avec l'aval de l'éducation nationale? Je termine avec Jérémy et un commentaire qui pique un peu. Il écrit « Beaucoup de jeunes qui partent à l'école et qui écrivent sur les réseaux sociaux peuvent également être considérés comme illettrés, surtout quand on voit les « ils croivent », etc. Il y a de quoi saigner du nez. » Et Samantha nous dit qu'elle aime bien les « viens, je t'amontre » et les « en dirai ». Un petit peu plus de légèreté, vous pouvez raisonner un petit peu. J'ai réussi. Bien, je t'amontre.
Oui, merci. Les orthophonistes de La Réunion qui se mobilisent pour lutter contre l'illettrisme. Vous allez donner votre avis tout à l'heure, Mégane Naz, sur cette réaction, notamment qu'il faudrait prendre du temps avec son enfant. Et d'abord, nous partons au standard. C'est depuis Sainte-Marie, nous retrouvons Liliane. Bonsoir, Liliane.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous allez bien?
Très, très bien, merci. Très bien. C'est vrai que c'est un sujet qui me touche, puisque mon fils a 23 ans aujourd'hui.
Oui.
C'était vraiment difficile, la scolarité, très difficile. Et c'est un enfant brimé au collège, avec tous les problèmes, parce qu'il est différent. Oui. Hein, il est dyspraxique et dysgraphique. Et franchement, voilà, il fallait être derrière. Les parents, il y en a qui peuvent être derrière. Mon cas, c'est pas le cas pour tout le monde, c'est pas évident. L'école ne nous aide pas vraiment. Hein. Je suis désolée de dire ça. Arrivé au lycée, on a changé d'école parce qu'on m'a dit que mon fils n'arrivera à rien. C'est même un illettré. Enfin bref.
Oh là là.
Toujours derrière, être pour le soutenir. Être présente toujours au conseil de classe, justement pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on dit de lui, comment il avance et tout ça. Il faut dire qu'au collège, il a eu quand même le prix de l'élève le plus méritant. Donc ça, c'était vraiment la première satisfaction.
Bravo.
Pour lui.
Ouais.
Ensuite, il a eu son bac de français avec de très bonnes notes en français. Il a eu son bac aussi, donc on n'y croyait pas, il l'a eu. Voilà, mais toujours en étant derrière, la maman derrière, toujours, parce que ben on était méchants avec lui. Mais il s'est renforcé, il nous parle encore aujourd'hui. C'est toujours de l'émotion, parce que ben il était différent. Il a eu son permis, il est à l'université, et je dis aux parents, lâchez pas, puisque c'est la victoire au bout, c'est un combat de tous les jours, un petit bout, on gagne un petit bout, on est content, on l'encourage, et voilà, il faut pas lâcher.
Quel beau témoignage.
Ils ne sont pas bêtes. Oui. Ils ont juste un petit quelque
jamais,
chose.
Ne jamais, jamais penser ça, ne jamais penser à ça, Liliane, absolument pas. Et la preuve, vous dites vous-même, hein, tout ce qu'il a eu comme diplôme, il a eu son permis, il est aujourd'hui à la fac. Lydie Marin, une réaction suite à ce témoignage?
Ben, c'est ce qu'on a aussi au cabinet quand
aussi,
on aide les parents. C'est toujours un parcours du combattant. C'est vrai que quand les familles et les enfants arrivent au cabinet, la première chose qu'on voit, c'est que effectivement l'enfant ou même le plus grand, l'ado, n'a pas confiance en lui, se dévalorise et la première chose qui ressort quand on commence une rééducation comme ça pour n'importe quel trouble, c'est qu'à partir du moment où l'enfant se rend compte qu'il est capable de faire de mieux en mieux, il va gagner confiance en lui et ça va rebooster les troupes. Et c'est vrai que de l'autre côté, quand certains enseignants ne comprennent pas ou ne mettent pas en place des aménagements pédagogiques, c'est leur mettre c'est la double peine, quoi. Ils sont déjà
Exactement.
En difficulté, ils ont déjà une confiance en eux dans les chaussettes. Ils sont intelligents. Tous ces enfants, ils sont 10, mais ok, ils sont 10, mais autrement, ils vont bien. Hein. Ils réfléchissent, ils pensent par eux-mêmes, ils sont rigolos, ils ont de l'humour. Et tout ça, c'est sain parce que, justement, on leur dit qu'ils sont nuls, qu'ils arriveront à rien.
Oui.
Moi, je suis pas d'accord. Tous ces porteurs de 10 ou d'autres troubles, ce sont des êtres humains comme tout le monde. Et il faut en prendre soin. Pour que l'objectif, en tout cas nous les orthophonistes, notre objectif, c'est qu'ils deviennent autonomes et indépendants.
Alors, est-ce que ce
même
sera
si
qu'ils deviennent autonomes
moins vite, oui, ou ils feront des erreurs d'orthographe ou leurs phrases seront pas super au niveau syntaxique, mais ouais. Voilà, l'objectif c'est l'autonomie et l'indépendance.
Qu'ils deviennent indépendants et autonomes. Mais alors, est-ce que c'est le plus vite possible ou alors avec le temps que ça prendra?
Le plus vite possible.
Le plus vite possible.
On n'est pas à faire
c'est
une
sûr.
Course.
Oui, oui.
On est là pour qu'ils développent leurs compétences à long terme de façon pertinente.
À leur rythme, c'est ça.
Voilà, excusez-moi, est-ce que je peux dire encore un petit mot?
Non, Liliane, non, je plaisante. allez-y.
Merci, juste un petit mot très important, puisqu'on l'a vécu. Dans les centres spécialisés, il y a des super professionnels, mais il y a un problème, il y a des spécialistes qui arrivent pour un certain temps et qui repartent. Ça veut dire que le travail, il faut repasser avec quelqu'un d'autre. Et voilà, si l'enfant a eu un certain contact avec un, on les change. Et ces enfants-là, il faut pas les changer. Il faut pas changer.
Alors, chez les
habitudes.
Chez les orthos aussi, c'est le turnover.
Comment ?
Chez les orthophonistes, c'est aussi le problème. Hein. C'est le turnover. Hein.
Et ça, c'est un problème.
Ça, c'est
Moi, je pense, comme disait quelqu'un tout à l'heure, il fallait former des gens pour la réunion, parce qu'il faut un suivi, un très long suivi, et l'enfant, il faut qu'il ait confiance en cette personne-là. On ne peut pas se permettre de le faire changer. Une ergothérapeute qui était très bien, ça part, il y en a une autre qui revient. Non, c'est pas ça. Si on veut vraiment que nos enfants réussissent, il faut qu'on les suive correctement et sérieusement.
Mégane Naz, oui. Vous partagez...
Oui,
après
moi, changer d'orthophoniste, changer de professionnel de santé, c'est bon, peut-être la cause, si c'est un turnover et que forcément l'orthophoniste s'en va, c'est compliqué peut-être d'en trouver une autre. Mais de temps en temps, dans les pratiques, même un patient à nous, des fois, quand on a un patient qui va en centre de rééducation, par exemple, et à ce moment-là, on ne le suit plus. Et c'est toujours intéressant parce qu'il voit une autre pratique, une autre orthophoniste, d'autres méthodes, parce que on a chacune nos méthodes, chacune notre pratique qui est différente. Et ça peut leur faire du bien aussi, des fois. Bien sûr, c'est une autre façon de... Voilà, c'est une autre façon. Mais après, voilà, c'est pas 5 orthophonistes dans l'année, on est d'accord. Hein, mais un petit changement de temps en temps. Moi, je vois quand j'ai une remplaçante de temps en temps, même si les patients, des fois, ils s'en plaignent un petit peu, mais c'est parce qu'ils ont cette habitude-là. Mais c'est le discours qu'on arrive à avoir parce que ça leur fait du bien, mine de rien, de voir la pratique de quelqu'un d'autre et d'apprendre de quelqu'un d'autre aussi. Donc, c'est toujours intéressant. C'est toujours un petit plus. Mais ça dépend, bien sûr, des causes de changement d'orthophoniste ou de professionnel.
Pour votre fils, Liliane, il a consulté pendant combien de temps l'orthophoniste ?
Alors, l'orthophoniste, il n'a pas été... on n'a pas suivi vraiment l'orthophoniste, parce que moi, j'ai senti que ce n'était pas ce qu'il avait besoin. Nous, on l'a suivi plutôt en ergothérapeute, parce qu'il fallait qu'il tape dans la machine, qu'il apprenne. En fin de compte, il a appris la dactylographie, avec la base cachée. Et maintenant, il se débrouille très, très bien à l'ordinateur. Donc, lui, c'était pour avoir un ordinateur à portée au niveau de l'école. Et donc, c'était plus vers le. On était plus dans le centre spécialisé, donc le CMPP qu'on n'est pas cité, avec le docteur Cise. Hein, donc, mon fils était suivi très longtemps là-bas, avec cette méthode-là. L'orthophoniste, on l'a vu à l'extérieur, mais on n'a pas voulu aller plus loin, parce que moi, j'ai senti qu'il n'avait pas besoin de ça.
Oui, merci beaucoup pour ce témoignage, Liliane. Merci à vous.
Je vous en prie, ça m'a fait du bien.
Ça vous a fait du bien, c'est le principal.
Voilà.
D'accord.
Bon courage à tous les parents, parce que c'est pas évident, c'est très très dur, et tu comprends pas. On pense que nos enfants sont des cancres, c'est ce qu'on nous dit en face. Et non, c'est pas vrai, ce sont des enfants très intelligents, attention.
Profitez
Suivez vos enfants.
Merci, soyez surtout à l'écoute et attentifs, et bien sûr.
Moi je suis fière de mon fils.
Merci à vous, Liliane.
Je voudrais que tous les parents soient fiers de leurs enfants, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre d'eux.
Les parents sont fiers de leurs enfants. Merci beaucoup. Voilà. La lutte contre l'illettrisme avec nos orthophonistes qui sont avec nous en studio. Profitez de leur présence pour poser toutes les questions au 02 62 99 2000. Mégane Naz et Lydie Marin, toutes les deux qui font partie du syndicat des orthophonistes. Alors, on parlait tout à l'heure de ce site Allo Orthopoint.com, c'est pour faire le lien surtout entre les parents, les aidants et puis les patients et les orthophonistes. Et vous avez aussi votre page Facebook Mégane Naz.
Oui, on a notre page Facebook qui est récente aussi. On l'a ouverte depuis un an et demi à peu près. On a décidé de se mettre aussi sur les réseaux parce que ben, c'est important, même pour la prévention. Donc notre page Facebook s'appelle Parlons Prévention avec le SOR, SOR, S-O-2-R. Parlons prévention avec le SOR, orthophoniste 974. C'est vrai que le SOR, tout coup, ça ne parlait pas aux gens, donc on a rajouté orthophoniste 974. Voilà. Mais voilà, on essaie en tout cas de publier des petites informations de prévention quand ce sont sur des journées nationales. On essaie de faire des petits articles ou bien de republier simplement des choses intéressantes comme le site d'Allo Ortho qu'on republie de temps en temps. Et puis, on a eu la chance aussi d'avoir quelques petites vidéos avec Tony Boyer, Titi au comique, qui nous avait fait pareil, des petites vidéos pour notre site de prévention. Et voilà, c'était un moyen de mettre un peu d'humour aussi en même temps. Mais c'est la page, en tout cas, qu'on utilise et qu'on essaie d'alimenter au mieux sur cette page-là, de toute façon. Et évidemment, référencer le formulaire d'inscription pour l'action des journées nationales d'action contre l'illettrisme. Et voilà, c'est vraiment la page grand public, destinée au grand public, pas destinée à la prise de rendez-vous, vous vous en doutez, mais en tout cas pour informer, conseiller. Et voilà, s'il y a des réponses sur les messengers, généralement c'est moi. Mais voilà, malheureusement, on ne peut pas faire plus qu'informer à partir de cette page-là.
Vous êtes réactif, hein, donc vous êtes sur les réseaux, vous êtes surtout à l'écoute des Réunionnais. Nous allons partir sur Saint-Pierre. Isaac, bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors moi, j'aimerais intervenir concernant...
Est-ce que vous êtes avec le haut-parleur, avec votre téléphone?
Oui, tout à fait.
Vous pouvez couper le haut-parleur, s'il vous plaît?
Deux petites minutes.
Oui, ce serait bien.
Et voilà,
puis nous
écouterons,
oui, Annie ensuite. Allez-y.
Oui, en fait, moi, j'interviens parce que j'ai mon petit-neveu là, de 7 ans, alors, qui malheureusement n'arrive pas à avoir un rendez-vous chez l'orthophoniste seulement après 3 ou 4 mois. Alors, c'est vraiment inquiétant. Alors, il faut savoir que lui, il habite sur le nord, dans le nord, sur Saint-Denis. Alors moi, je trouve ça vraiment inquiétant parce que il a dû faire le déplacement jusque Saint-Pierre pour pouvoir avoir un rendez-vous chez un orthophoniste. Alors il faut savoir qu'à 7 ans, il n'arrive toujours pas à s'exprimer. Alors je ne saurais point vous dire. Moi-même, je suis professionnel de santé, mais je ne saurais pas vous dire s'il est dyslexie ou dyspraxie ou quel que soit le 10, mais je trouve ça vraiment inquiétant le fait qu'il n'a pas pu avoir rendez-vous rapidement. Donc c'est vraiment désolant de voir ça et qu'il a dû faire l'aller-retour à plusieurs reprises Saint-Denis-Saint-Pierre pour pouvoir consulter un orthophoniste.
Oui, Lydie Marin, présidente du syndicat des orthophonistes, pour répondre à notre auditeur.
Je partage votre désarroi, Isaac. On comprend tout à fait les difficultés et le désespoir des familles de ne pas obtenir un rendez-vous quand il y en a besoin. Il faut savoir aussi que les orthophonistes du nord, du sud, de l'est et de l'ouest nous faisons le maximum pour aider un maximum de gens, mais comme je disais tout à l'heure, à l'impossible, nul n'est tenu. Nous ne sommes pas assez. Il y a énormément de demandes. Nous faisons le maximum et effectivement, c'est horrible de devoir traverser toute l'île pour avoir pour faire son bilan chez l'orthophoniste et ensuite faire des allers-retours plusieurs fois par semaine, parfois pour aller en séance de rééducation. Si nous avions la solution. Nous l'aurions déjà mise en place depuis très longtemps. On est désolé, mais on essaie de faire au mieux. Et nous ne pouvons pas faire plus que ce que nous avons aujourd'hui.
Alors, voilà. J'avais une petite question vite fait. Est-ce qu'il y a une école d'orthophonie à La Réunion?
Pas encore, mais elle est en cours de construction.
Ah, ben voilà, c'est ce qui, à mon humble avis, il en faudrait un absolument. Parce que. Vu la demande importante en termes de prise en charge quel que soit le type de patientèle, il y a une grosse demande, donc
Nous sommes d'accord. Et bien sûr, oui, il faudrait une école, oui, il faudrait beaucoup plus d'orthophonistes. D'après ce que j'ai compris, il y a un cargo qui arrive bientôt, c'est ça, Lydie Marat.
Non, voilà. C'était une blague, je ne montais pas.
Non,
je sais, je serais la plus heureuse.
C'est une plaisanterie. Isaac, merci beaucoup.
Merci pour bonne soirée.
Mais là, vous mettez le doigt sur un réel problème qui n'est pas seulement propre à La Réunion, mais vous avez aussi la même situation sur le territoire national. Il y a un manque d'orthophonistes. Les gens, les parents, sont obligés de patienter pendant parfois 2 ans, 3 ans pour avoir un rendez-vous. Merci à vous. 18h45 sur Réunion La Première. Une militante culturelle est avec nous. C'est Annie Darancourt. Bonsoir Annie.
Bonsoir Claude. Alors là, je viens pour...
Poétesse, je rajoute.
Il essaye.
Sur le sujet, évidemment, de l'illettrisme et le fait de savoir qu'aujourd'hui, vous avez les orthophonistes qui montent au créneau et qui se mobilisent pour lutter contre l'illettrisme. Votre réaction, Annie Darancourt?
Oui. Alors, bien entendu, sur l'illettrisme, c'est un fléau. Mais Claude, je pense qu'à La Réunion, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas été détectés, j'emploie le mot entre guillemets, 10. Oui. Je vais prendre le cas, j'apporte là un témoignage, Claude, parce que l'illettrisme, ça me touche énormément. Hein. J'avais 17 ans, Claude, bon, maintenant c'est 50 de plus. J'ai commencé les cours à l'ARCA, je donnais les cours à l'ARCA. Les personnes qui ne savaient ni lire, ni écrire. Et au bout de 3 ans, ces personnes sortaient, savaient faire les 4 opérations, lire le journal. Bon, là maintenant, je vais parler sur les 10, demander aux parents. Alors, ma fille, que vous connaissez, Claude, a 43 ans. On vivait en métropole, elle a fait sa 6e, sa 5e. Alors, les professeurs dans la lune, d'être dans la lune, enfant dans la lune, enfant dans la lune, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, j'ai lié ça un petit peu à l'astrologie, j'ai dit, ouais, d'accord, en poisson dans la lune, d'accord. De retour à La Réunion, elle a continué, après ça a été. Elle a fait son BEP de carrière sanitaire et sociale, elle a travaillé un peu, et c'est quand elle a fait, à l'âge de 38 ans, sa formation de monitrice éducatrice Claude, qu'elle a découvert qu'elle était dyslexique. C'est dans sa formation, dans les cours, ouais. Voilà, qu'elle a découvert. Et donc là, elle a pu faire un bilan, aidée par l'école, hein, un bilan pour vraiment détecter, parce qu'elle devait passer ses examens, donc avoir un temps plus long, hein, auprès de la MDPH, pour faire ses écrits. Eh bien, aujourd'hui, Claude, ça fait 2 ans, ma fille est éducatrice spécialisée. Donc, c'est pour dire aux parents de ne jamais, jamais désarmer. C'était difficile pour elle. Et j'ai tenu ma fille. Je lui disais, moi, j'ai confiance en toi. Mais si tu n'as pas confiance en toi, je ne peux rien pour toi. Toujours l'aider. Dans le temps qu'il lui fallait pour travailler à la maison, c'est de voir, eh bien, maman, préparez à manger, viens manger à case, ma fille, allez. Voilà. Donc, ne jamais désarmer. Elle fait ses écrits professionnels et, bien entendu, dans sa profession, quand elle rencontre des enfants, tout de suite, si elle arrive à détecter, elle fait le nécessaire pour qu'un bilan soit fait, pour détecter au plus tôt. Voilà, donc ne désarmez jamais, j'ai la preuve à travers ma fille. Mais là, les parents, soyez forts, hein. Tenez fort les enfants, faites confiance et dites-leur que vous avez confiance en eux.
Et surtout voilà, que les parents soient attentifs, nous sommes d'accord Annie. Hein. Et puis, oui. Puisque vous aimez vous aussi les livres, plutôt privilégiez le livre qu'un écran pour un enfant. Vous avez entendu, je ne sais pas tout à l'heure, on parlait d'un enfant de 3 ans qui passait 3 heures sur un écran, vous imaginez?
Oui. Ben, les miens, c'est maintenant 43 et 46 ans, de 7h ils dînaient jusqu'à 8h30 au lit avec un livre. À 8h30, extinction des feux. on discutait un petit peu, ils lisaient. J'ai mes deux petits de 6 et 10 ans, ben, quand ils sont à la maison, avec mamie, on se raconte des histoires. Alors, le conteur raconte en français et le dialogue, il fait en créole. Au moins, on a les deux langues.
C'est super.
Et mais on profite pour expliquer nos beaux vieux mots créoles qu'on a disparus.
C'est super. Annie Darancourt, poétesse, militante culturelle. Merci beaucoup.
Ben, merci aux invités et vraiment merci, Claude, pour cette émission. Elle est magnifique et j'espère que ça va donner beaucoup d'espoir aux parents.
On est d'accord. On reviendra tout à l'heure sur le rôle des parents, un rôle très, très important auprès de leurs enfants. La lutte contre l'illettrisme avec le coup de main, surtout des orthophonistes, c'est au cœur de votre émission de ce soir.
17h-19h, on s'explique. Vos appels au 02 62 99 2000, vos SMS au 06 92 70 2000.
Megan Naz, vous êtes la chargée prévention au syndicat des orthophonistes. Le message à faire passer ce soir pour nos auditeurs.
Alors ce soir, on leur dira que les tout-petits ont tout ce qu'il faut pour développer leurs compétences, mais qu'elles ne pourront se développer qu'avec les interactions et la communication avec les humains.
Ne doutez pas, c'est ça hein, qu'il faut dire aux parents que leurs enfants ont toutes les compétences.
Il a toutes les habiletés depuis sa naissance, c'est juste qu'il faut l'aider à les développer simplement. Quand on va revenir un petit peu sur les écrans, le mot d'ordre dans notre profession, c'est pas d'écran avant 3 ans. Et après 3 ans, une heure par jour. C'est tout écran confondu, hein. C'est pas une heure la tablette,
donc,
une heure la télé,
téléphone,
voilà, tout
portable,
écran confondu. Oui. Et c'est en tout cas pour des tout petits largement suffisant. Il faut pas d'écran dans la chambre, c'est important parce que bah, ça joue sur le sommeil évidemment. Pas d'ordinateur, enfin voilà, tous les écrans, vous avez compris. Pas le matin avant d'aller à l'école, pas le soir après le dîner avant de dormir, parce que sinon on ne dort pas. Simplement, ça stimule l'enfant, donc il faut le comprendre aussi. Donc voilà, important en fait de limiter les écrans. On n'est pas là pour dire qu'il faut les interdire, mais les limiter, et en tout cas les tout petits surtout, ben, éviter. Rappeler que voilà, l'interaction, le jeu avec l'adulte, tout ça, c'est ce qui va lui permettre de développer son langage, et c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis un petit conseil, quand les parents ont un peu du mal à faire produire à leurs enfants des mots, parce que bah, c'est vrai qu'ils ont tendance, et souvent ça revient, tu veux du lait ? Oui.
Tu veux du lait ?
Tu veux manger ? Oui.
Oui.
Et en fait, ce sont des questions fermées qui amèneront juste comme réponse oui,
oui
ou, non.
Ou non.
Et semblent produire même des fois avec la tête oui ou non. On va plutôt privilégier peut-être des petites questions ouvertes et amener l'enfant à vouloir produire à un moment donné, essayer de le faire communiquer. Et à ce moment-là, c'est « qu'est-ce que tu veux boire ?» Et même s'il ne produit pas, on va lui donner la réponse. C'est ce qu'on appelle un feedback positif. On va lui faire le retour positif et un jour, il demandera lui-même « tu veux du lait ?» Oui. Non, « qu'est-ce que tu veux boire ?» Il va peut-être pointer et nous, on va mettre un mot sur l'objet. Voilà. Donc, c'est vraiment amener l'enfant à communiquer, parce qu'au final, si on lui demande juste ce qu'il veut et qu'il a juste à faire un signe de tête pour dire oui, non, on ne l'aide pas non plus à entrer dans la communication.
Voilà. Megan Naz, Lydie Marin, est-ce que vous voulez écouter Elodie Ayer ?
Oui, avec plaisir.
pour les commentaires laissés sur les réseaux sociaux, Elodie.
Et toujours beaucoup de réactions du style comment arriver en troisième sans savoir lire ou écrire ? Il y a une faille dans le système éducatif. Nous devons tout mettre en œuvre pour aider ces personnes en souffrance, ces élèves en échec scolaire, ces adultes incapables d'écrire une phrase correctement ou de lire un simple texte. 110 000 illettrés à La Réunion, c'est trop. Gérard nous dit qu'il faut aussi souligner que l'autre partie de la population, c'est-à-dire plus de 70%, n'est pas concernée par l'illettrisme. Laurence est enseignante et en colère quand elle entend les témoignages et certains parents pointer du doigt l'école. Elle écrit qu'on ne va pas laisser un enfant redoubler son CP indéfiniment jusqu'à ce qu'il sache lire et écrire. Mais pour elle, les enfants en difficulté peuvent bénéficier aujourd'hui de parcours adaptés, de suivi par des enseignants spécialisés, par des médecins, des orthophonistes, être reconnus par la MDPH. Malheureusement, il y a parfois des blocages chez certains enfants. Laurence écrit « J'en ai eu un comme ça, gros blocage psy, suite à de forts traumatismes. Il ne fixait aucun apprentissage sur la durée. Pour un autre que je connais également, c'est dur. C'est un enfant pour qui mes collègues se battent depuis 4 ans pour lui apprendre à lire. » 4 ans, plusieurs méthodes différentes, des demandes de suivi, mais une famille dans le déni et aucun progrès. Malheureusement, la baguette magique pour lutter contre l'illettrisme, qu'est-ce qu'on aimerait la voir, nous dit cette enseignante. Enfin, pour Ariane, l'illettrisme n'est pas près de disparaître. Trop d'écrans, moins d'enfants et de jeunes qui lisent. Les parents, c'est pareil. Et pourtant, l'exemple, c'est eux. L'enfant qui ne voit pas son papa ou sa maman avec un livre ne tiendra pas un livre dans ses mains par plaisir. Et elle revient sur l'affaire du langage SMS et réseaux sociaux et écrit « Il suffit de regarder comment certains écrivent sur Facebook. Parfois, c'est de la phonétique. » Elle parle même de l'iPhonétique, Claude. Tu veux que je t'amende comment on écrit en iPhonétique ?
Merci Elodie.
Je peux, hein, je dis
oui, trop. Absolument. Merci beaucoup. Vous reviendrez parce que le sujet mérite vraiment qu'on écoute encore plus les auditeurs. Mmh. On va rappeler que les journées nationales d'action contre l'illettrisme, eh bien, ces journées auront lieu du 8 au 15 septembre. Et pour plus d'informations, Mégane Naz.
Sur la page Facebook Parlons Prévention avec le sort, orthophoniste 974. Et puis, venez, parce que sans trop d'inscriptions. On espère ne pas avoir à annuler l'action parce qu'elle est très importante. Il y a beaucoup de gens en demande, surtout. Si vous avez des doutes sur l'évolution du langage de votre enfant, venez. Si vous avez besoin de clés pour votre bébé, pour son développement à la maison, venez. C'est vraiment pour les 0-3 ans.
Voilà. Vous êtes la chargée prévention au syndicat des orthophonistes de La Réunion, oui. Mégane Naz. Merci à vous, Lydie Marin, vous. La présidente du syndicat. Et je vous dis à bientôt. Retrouvez l'émission en podcast sur le site de Réunion La Première.
17h-19h, on s'explique sur La Première.